C'est une révolution.
Je vous ai compris.
I have a dream.
Libération !
Libération ! Entre ici, Jean Moulin, avec ton terrible cortège.
That's one small step for man.
Ich bin ein Berliner.
Groupir ! Il faudrait le groupir ! Qu'est-ce qu'il dit ? Groupir !
Tout à l'heure, toi.
Et toc, remonte ton scribard, Lothar.
Messire !
L'histoire ne s'affaiblit pas comme régime de vérité sur le passé lorsqu'elle exhibe avec suffisamment de franchise ses incertitudes.
La percée de l'histoire.
La percée de l'histoire.
Ça commence maintenant.
Mesdames et messieurs, bonsoir à tous et bienvenue sur Radio Alpa pour s'écouter une petite émission de la percée de l'histoire, bien évidemment pendant une heure, nous allons parler d'histoire. Et je ne serai pas seul parce que je suis toujours avec le grand et le magnifique Salouane. Bonjour Salouane.
Bonsoir, comment tu vas?
Ça va et toi?
Ça va. Je me suis bloqué la nuque, voilà.
Ah bah.
Pour tous ceux qui demandent.
Et mais... comment tu as fait ton office?
Je... Ouais. Voilà. Je dors de travers, des nuits agitées.
Ah là là.
Et la tête qui passe sous le... Bah, dans le vide, quoi. Et du coup, bah, la nuque tire. Ouais. Fallait que ça tombe sur moi. Let's go.
Ah oui, dans le vide, carrément.
Ouais, ouais, c'est...
Je n'imagine pas la position que ça doit donner. Mais
quand je me suis réveillé le matin, ouais, c'était assez drôle.
Tu m'étonnes. Mais en tous les cas, tu es là.
Oui.
Et c'est très bien. Et d'ailleurs, qui d'autre est là? Le soleil et la chaleur.
Oui. Oh, j'ai cru qu'il y avait un happening, on attendait quelqu'un.
Bah, c'est un peu un happening, hein,
mais
finalement.
Oui, ça y est, l'été a commencé. 30 degrés aujourd'hui.
C'est vrai que
plaisir.
Là, dans le stud, il fait calor.
Ouais, mais ça fait plaisir, le ciel bleu, le soleil.
Voilà, voilà. Où on va enfin aller pouvoir dehors, manger tranquillement. En t-shirt, figurez-vous. Bon, qu'est-ce que tu as fait pendant la semaine là, qui s'est écoulée?
Alors, on est mardi.
On est mardi.
Donc, bah, hier, c'était journée de repos pour moi.
Ouais.
J'ai travaillé ce week-end. Hier, repos et aujourd'hui, travail. Ce week-end, c'était le rendez-vous du Moyen-Âge sur le jardinage. Donc, on a parlé jardin, on a parlé alimentation paysanne, etc. etc.
Mm-hmm.
Hier, repos. Donc, bah, je n'ai rien fait.
Voilà, c'est dans
ça
le titre.
Ça s'est réglé. Hein. Et aujourd'hui, du coup, on a accueilli la dernière école de la saison. Au manoir de la cour, voilà.
Parce que pendant l'été, ça sera juste des particuliers qui seront
particuliers,
invités,
des groupes adultes et puis des centres de loisirs pour l'accueil des enfants. Ouais.
Bien sûr, bien sûr. Les activités continuent et
exactement.
Battront leur plein tout l'été au manoir de la cour, bien entendu.
Et vous, cher monsieur, votre semaine?
Ah ben moi, cher monsieur, ça a été, figurez-vous, j'ai été à la fête de la musique.
Oui,
vendredi.
C'est vrai, vendredi soir.
Il y a eu la fête de la musique. Il a plu vraiment à la toute fin, vers 1h30, 2h. Donc voilà, heureusement, je suis content. S'il avait peut-être plu un tout petit peu avant, mais c'est vrai qu'il faisait pas chaud.
Ouais.
Il faisait pas chaud. Mais au moins, il pleuvait pas, parce qu'il nous avait annoncé des trombes d'eau avant. Mais ça va, on est passé à côté, parce que je crois qu'au bout d'un moment, il y a eu des nuages inquiétants et menaçants. Mais tout s'est bien passé, donc ça va super. Hein. Et autrement, bon, le week-end, j'ai rien fait.
C'est un week-end de repos, quoi.
Bah oui, oui. Et puis, bah, comme la fin d'année scolaire approche, bon, bah, c'est vrai que là, on se concentre sur les révisions de troisième.
Ouais.
Voilà, le bouleversement des programmes et des emplois du temps. Là, on va se concentrer, presque tous les profs, à faire réviser nos troisièmes sur le brevet. Le brevet qui arrive la semaine prochaine, le 1er et le 2 juillet. Donc, assez tard
cette année, ouais.
Mais bon, écoutez, c'est le jeu de la vie, disons. Et bah, moi, par contre, voilà, je travaille toute la semaine et je ne fais pas de surveillance, pas de correction. Donc,
vous êtes démis de vos fonctions.
C'est un peu ça. Je suis un peu démis de mes fonctions, mais je l'accepte volontiers. Bref, en tous les cas, en attendant, nous allons bien évidemment commencer par celui qu'on adore tous, qui s'appelle Journal Historique. Et ensuite, nous aurons deux petites chroniques. D'abord, Salouane qui nous parlera du patrimoine des cloches. J'ai bien aimé ce titre quand tu l'as envoyé. J'ai fait « Oh là là, ça chante !» Et moi, je vous ferai une petite histoire de l'hôpital du Mans, qui est pas mal, hein, je trouve. Et c'est l'occasion d'en parler, évidemment. Mais tout de suite, sans transition, le journal historique. Et alors, que s'est-il passé le 25 juillet dans l'histoire, mon cher Salouane ?
25 juin.
25 juin, oui, j'ai dit juillet.
Alors, on va commencer par... Il y a beaucoup de choses.
C'est vrai. On peut citer, aujourd'hui, la libération de Julian Assange.
Oui,
qui
oui.
Qui s'est faite aujourd'hui. Oui, voilà.
C'est ça.
Le monsieur qui avait révélé des contenus secrets de la CIA, il
oui,
me
c'est
semble.
Ça.
Hein. Et donc, il avait été emprisonné pas mal de temps, le pauvre. Et là, bon, il a obtenu gain de cause, entre guillemets.
Oui, il doit passer, je ne sais plus ce qu'il doit faire, mais il a une chance d'éviter la prison, donc il doit faire quelque chose pour, je ne sais pas si trop.
C'est une, ouais, c'est une procédure assez complexe, hein, vous l'aurez compris. Mais il peut retourner chez lui en Australie.
Eh ben, bisous.
Bravo, merci. Merci à vous.
Alors, à part ça, beaucoup de choses, je le disais. Beaucoup de batailles, beaucoup de morts de personnages. On va commencer par le 25 juin 1530. La confession d'Augsbourg. Devant la diète du Saint-Empire romain germanique à Augsbourg, l'empereur Charles Quint propose d'arbitrer la lutte religieuse entre les luthériens et le pape. Il a besoin en effet du soutien de toute la noblesse allemande pour repousser une offensive turque, mais les théologiens catholiques rejettent la profession de foi de Luther connue sous le nom de « Confession de foi d'Augsbourg » et présentée le 25 octobre 1530 par Philippe Mélenchon. Et c'est son vrai nom. C'est
alors
Mélenchon.
Oui, c'est pas une blague. Hein.
C'est pas une blague.
Ah, Mélenchon. Bon, bah,
ensuite, nous avons le 25 juin 1876. Le général Custer est tué à Little Bighorn. Au matin, du 25 juin 1876, le général américain George Armstrong Custer tombe dans une embuscade tendue par les Sioux du chef Sitting Bull. Les 285 hommes du détachement de cavalerie se font proprement massacrer par les Indiens près de la rivière de Little Bighorn, dans le Montana. Ensuite, nous avons le 25 juin 1928. Le franc germinal disparaît. Le 25 juin 1928, le président du conseil Raymond Poincaré dévalue le franc. Celui-ci ne vaut plus que le cinquième de la contrepartie en or du franc d'avant 1914, le franc germinal, créé par Napoléon, Bonaparte. Poincaré évite ainsi l'erreur de Churchill, chancelier de l'échiquier, qui a 3 ans plus tôt réévalué la livre à son niveau de 1914 et porté de ce fait un coup sévère aux exportations britanniques. Et pour finir, le 25 juin 1950, début de la guerre de Corée. Durant la nuit du 24 au 25 juin 1950 à 4h du matin, 600 000 soldats nord-coréens franchissent la ligne de démarcation qui sépare leur État sous gouvernement communiste de la Corée du Sud sous régime pro-occidental. C'est le début de la guerre de Corée.
Merci beaucoup Salouane pour tous ces événements. Et pour les naissances, il y en a pas mal quand même. Il y en a 3, dont 2 particulières. George Orwell, qui est né le 25 juin 1903 et mort le 21 janvier 1950. À Londres, de son vrai nom Eric Arthur Blair, George Orwell naît aux Indes le 25 juin 1903. De père fonctionnaire en charge du commerce de l'opium. Boursier dans les pensionnats de l'élite anglaise, il éprouve l'amertume du déclassement. Après des études au collège d'Eton, où il découvre le communisme, il s'engage comme sergent en Birmanie. Il démissionne au bout de 5 ans et vit dès lors de petits boulots à Paris et à Londres. Bien évidemment, il sera connu pour son fameux livre dystopique, 1984. comme naissance, nous avons aussi Pierre Brossolette, né le 25 juin 1903, lui aussi à Paris, cette fois-ci, et mort le 22 mars 1944 à Paris, toujours. Journaliste et fonctionnaire engagé à gauche et pacifique, Pierre Brossolette ne tarde pas à comprendre la menace que constitue le nazisme. Pendant la campagne de France, il se bat avec courage et gagne ses galons de capitaine. Il rejoint dès 1940 le groupe de résistance du Musée de l'Homme, puis fonde le groupe Libération Nord, dans la zone occupée, et devient chef de la confrérie Notre-Dame aux côtés du colonel Rémy. Rallié au général de Gaulle, il s'oppose néanmoins à son projet initial de réanimer au sein de la résistance les anciens partis de la Troisième République, y compris les communistes. Cela lui vaut de violentes altercations avec Jean Moulin en charge de ce projet. Pierre Brossolette veut gagner Londres pour en débattre avec le chef de la France libre, mais il est arrêté par la Gestapo à la suite d'un barrage de routine à Plogoff, à la pointe de la Bretagne. Transféré à Paris, il est torturé et se suicide pour éviter de parler en se jetant par la fenêtre du 84 avenue Foch à Paris. Pour les décès, nous en avons quatre. D'abord Giorgio Vasari, né le 31 juillet 1511 et mort le 25 juin 1574 à Florence. C'était un peintre et donc très connu dans la Renaissance italienne. Georges Cadoudal, né le 1er janvier 1771 et mort le 25 juin 1804 à Paris. C'est un partisan intransigeant, disons, de la cause royale. Georges Cadoudal marque la période révolutionnaire par son activisme et ses multiples complots en vue du retour des Bourbons sur le trône de France. Nous avons aussi la mort de Sadi Carnot, le 25 juin 1894 à Lyon, suite à la démission de Jules Grévy le 3 décembre 1887. Les parlementaires élisent à la présidence de la République Sadi Carnot, qui a alors 50 ans, petit-fils du conventionnel Lazare Carnot, ami de Robespierre. Il se fait donc assassiner, poignarder dans les rues de Lyon, alors qu'il était président de la République. Ce qui est d'ailleurs le seul président assassiné, oui, toute République confondue, hein, parce que tous les autres présidents ont survécu. Et enfin, pour terminer, Georges Courteline, mort le 25 juin 1929 à Paris. Georges Moineau, dit Courteline, a mis en scène ses romans « Les travers de la vie bourgeoise et de l'administration ». Eh bien, pour terminer ce petit journal, nous allons fêter les Prospères. Bonne fête Prospère. Cet érudit et théologien gallo-romain du 5e siècle fut un disciple de saint Augustin avant de devenir, bien que laïque, le secrétaire du pape Léon Ier, celui qui arrêta Attila devant Rome. Voilà, c'est tout pour ce journal historique assez long. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'événements, beaucoup de morts, beaucoup de tout ça. Et pour commencer tranquillement, on va s'écouter une petite musique. Afraid to Feel de LF System. C'est maintenant, c'est tout de suite sur Radio Alpa. We'll be right back. De retour sans transition pour écouter la percée de l'histoire sur Radio Alpa, parce que j'ai oublié ma clé USB avec la virgule qui est dedans, notre chère virgule qu'on aime toutes et tous. Bref, on va s'en sortir et ça ne nous empêchera pas d'écouter la chronique de Salouane sur le patrimoine des cloches.
Oui, je veux vous parler des cloches.
Et on ne parle pas de vous. Allez, c'est parti.
Alors, c'est dur d'enchaîner là-dessus. Oui, j'ai décidé de vous parler des cloches aujourd'hui, puisque avec le retour du beau temps, il y a aussi une espèce de touriste qui ressort aussi. C'est vous savez, les touristes qui viennent d'une grande ville, je ne dirais pas laquelle, mais elle accueille les JO à la fin de l'été, qui se déplacent en campagne.
C'est Toulouse, non ?
Oui, c'est ça, mais plus au nord.
D'accord.
Et ils sont souvent gênés par les bruits des cloches, qu'est-ce qu'il y a d'autre, le chant du coq le matin, l'odeur des animaux.
Voilà, j'allais dire l'épandage des lisiers dans la campagne.
C'est ça, et j'ai eu la chance d'être confronté à l'un d'entre eux.
C'est pas vrai.
Et du coup, on a discuté un moment sur justement l'utilité des cloches, et son argument principal ça ne sert qu'à donner l'heure aujourd'hui, donc pourquoi est-ce qu'on les garde ? On a tous des téléphones, des montres.
Excellent argument.
Très bien, mais non, ça ne servait pas qu'à ça, il y avait d'autres choses, et aujourd'hui ça fait partie d'un patrimoine et de l'histoire qu'il faut mettre en valeur, d'où l'idée de cette chronique. Et donc pour beaucoup, le son caractéristique des campagnes françaises et même des campagnes européennes en général, c'est le son des cloches. Puisque à une époque, ce son était vraiment le son qui rythmait la vie de nos ancêtres, j'ai envie de dire.
Bah, nos ancêtres, les Gaulois, quoi.
C'est ça, même pas forcément remonter jusqu'aux Gaulois, il n'y a qu'à aller jusqu'à, je sais pas, 50 ans.
Bah oui, bah bien sûr.
C'était rythmer les heures,
tu prends le siècle dernier.
Oui. Et donc, on va revenir d'abord sur le mot cloche. Le mot cloche, lui, vient du bas latin. Donc, on est à la fin de l'époque romaine, à la fin de l'Antiquité, à la toute fin de l'Antiquité. Le mot cloche vient du bas latin cloca, qui lui-même vient du mot clog, un mot gaélique qui a été importé par les moines irlandais qui ont colonisé, les missionnaires irlandais qui ont colonisé et évangélisé, on va dire, l'Angleterre d'abord, puis le continent. Et donc ce mot cloga va remplacer les mots latins romains de signum qui a donné signe et campana qui va lui rester, mais plutôt désigner le campanile, qui tire son nom donc de la région de Campanie, là où était fondu le bronze pendant l'Antiquité, etc., etc. Et d'ailleurs, à l'Antiquité, c'est là où on va commencer à avoir les premières cloches en Europe, autour de l'an 500 à peu près. C'est à cette période qu'on va avoir les premiers écrits qui font référence justement de cet objet, la cloche. Même si on sait qu'elles existent depuis très très longtemps, les plus anciennes seraient chinoises, autour de 4000 ans.
Ah, quand même.
Alors, de diverses formes, de diverses tailles, évidemment. Et puis, ce sont les chrétiens qui, en adoptant la cloche pour transmettre des informations, vont changer à tout jamais le paysage sonore de l'Occident. En quelques décennies seulement, des centaines de tours, de campaniles, d'églises vont se multiplier, et donc, des cloches avec elles, de plus en plus grosses. Ces cloches étaient consacrées et bénies, et certaines avaient même des noms. La principale fonction des cloches, donc je l'ai dit, c'est de transmettre des informations. Évidemment, pas de téléphone, pas de montre, j'ai repris les arguments, pas de tract ou pas de je ne sais quoi. L'information était sonore et donc le meilleur moyen de communication était la cloche. Et puis, on est surtout dans un monde où il n'y avait pas tous les bruits que nous connaissons aujourd'hui, comme un avion qui passe, les voitures qui passent, des travaux. C'était vraiment un monde assez calme. Alors, pas totalement calme. Il y avait quand même une présence humaine, donc forcément un peu de bruit.
Il y avait du bruit. Oui.
Mais c'était un monde qui était beaucoup plus calme qu'aujourd'hui. Et donc, le son des cloches, tout de suite, se faisait entendre, se faisait reconnaître. Les cloches marquaient les différents moments de la journée, donc toutes les heures. Et puis, à partir du XIIIe siècle, elles délimitent aussi la journée de travail. En Espagne, par exemple, le dernier son de cloche de la journée marquait la fin du travail dans les vignes. Et pas question de dépasser ou d'avancer. On n'est pas sur les 35 heures classiques. Là, c'est une recommandation religieuse. Donc, c'est un peu plus pris au sérieux par les populations de cette époque-là. Donc, on fait attention, on respecte bien les signaux sonores des cloches. Mais le son des cloches servait aussi à bien d'autres choses. Donc, dire l'heure, ça on l'a vu. Il permettait aussi de convoquer tous les offices, que ce soit religieux ou les assemblées municipales ou corporatives, puisque bah, l'église dans un village, c'est le lieu qui peut accueillir l'ensemble du village. Donc, c'est le lieu où vont se rassembler tous ces gens. Que ce soit pour un office religieux ou pour une réunion, on va appeler ça comme ça. Les cloches pouvaient également informer d'un décès, le nombre de coups indiquant s'il s'agissait d'un homme ou d'une femme et si la, ou si la personne était un adulte ou un enfant. Elles pouvaient célébrer les événements heureux comme les mariages et les dangers, comme un incendie ou une attaque par exemple. On pouvait entendre aussi un seul coup, simple, qu'on sonnait, et ce coup s'appelait la sonnerie du perdu. Ce coup sonnait quand des personnes se perdaient dans les régions montagneuses ou dans nos régions partant de brouillard où on ne voyait absolument rien. On pouvait sonner un coup pour se rassembler du coup au niveau du clocher ou du campanile ou de l'église. C'était un lieu de rendez-vous. On pensait également que les cloches protégeaient des tempêtes et de la grêle. Les vibrations émises lors des carillons étaient censées écarter les orages.
Wow.
Mais bon, ça c'était il y a quelques temps. Aujourd'hui, on sait très bien que c'est pas comme ça que ça fonctionne.
Non.
Et puis, depuis le Moyen-Âge, donc les cloches sonnent tout le temps. Pour les heures, tous les jours, pour le travail, pour les mariages, pour les fêtes. Il y a deux jours dans l'année où le silence des cloches est exigé. C'est le jeudi et le vendredi saint. À part ces jours-là, c'était un mauvais présage de ne pas entendre les cloches au moins une fois dans la journée. Parce que ça voulait dire que soit la ville ou le village était frappé d'hérésie et donc d'interdit de pratique de rites religieux, ou alors que la ville était assiégée, ou en guerre, ou malade. Et quand il s'agissait de guerre, on savait très bien que des cloches, donc c'est des énormes blocs de bronze, si on peut appeler ça comme ça, faisaient forcément un très beau butin de guerre, sachant que certaines étaient décorées, richement décorées, avec des joyaux, des bijoux, certaines étaient accompagnées de métaux précieux, donc ça en fait un très très beau butin. À la fin du Moyen-Âge, petite avancée technologique, les sonneurs manuels vont être remplacés petit à petit par des mécanismes automatiques, sonnant à intervalles réguliers et faisant des sonneries identiques, mais petite avancée technologique apporte aussi petite avancée de problèmes, puisque le battant va toujours frapper sur la cloche au moment de la sonnerie, et donc va créer une usure sur la cloche qui va finir par être irremplaçable. Là où, à l'inverse, le sonneur manuel qui actionne le battant n'a pas la même force, on va dire, à chaque coup. Donc, ça fait tourner le battant et là, au final, le battant ne frappe pas la cloche au même endroit. Donc, ça permettait d'avoir une usure égale, on va dire, sur tout le tour de la cloche. Et donc, on pouvait réparer. Aujourd'hui, comme c'est automatisé, eh ben on a de nombreuses cloches qui datent du Moyen-Âge, entre le 12e, 13e, 14e siècle, qui sont malheureusement jetées à la poubelle parce que on ne peut pas les réparer dû à cette usure. Ce mécanisme prend sa place dans les cathédrales, évidemment, dans les grandes églises, mais apparaît aussi dans les bâtiments civils, comme les horloges de beffroi. Un beffroi, qu'est-ce que c'est ? C'est une sorte de tour, un peu comme un clocher, qui abrite des cloches, horloges et carillons, et même parfois un phare aéronautique. Les beffrois font partie intégrante des paysages rythmant la vie, mais là plutôt des villes. Et certains beffrois, aujourd'hui en Belgique et en France, sont inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. Les beffrois ont continué de sonner jusqu'à très tard, jusqu'au milieu du XXe siècle, avant de s'arrêter à cause de l'exode rural. Certains groupes, aujourd'hui, militent pour leur retour et pour leur inscription, eux aussi, au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Voilà, donc les cloches, ça ne sert pas juste à sonner l'heure et à déranger les touristes parisiens qui viennent en vacances, en campagne.
Ah, tu as lâché la
oui,
nom de la ville.
Oui, ça y est, disons les termes.
Ah non, moi je croyais que c'était Lille, voilà. Tu m'avais dit plus au nord que Toulouse. Ben, j'ai appris un truc sur le fait de sonner une fois pour dire aux gens de perdu, on est là.
On est là, rejoignez-nous.
Voilà, mais oui, c'est vrai que je ne savais pas. Et puis aujourd'hui encore, figurez-vous, alors là, je vous donne un petit
Faites
secret.
Attention.
Non mais truc de dingue, mais c'est qu'il y a encore des chrétiens dans ce pays Et que, bah, oui. Et donc, on fête encore des mariages à l'église, et donc on fait sonner les cloches. Quand quelqu'un meurt, et ben on fait aussi sonner les cloches, comme tu l'as dit parfaitement. Par contre, je ne savais pas qu'on différenciait le coup des cloches en fonction de si c'est un adulte ou un enfant, une femme ou un homme.
Homme ou femme aussi.
Mais ça m'étonnerait qu'ils aient abandonné ça. Ça doit être toujours la même chose. Et comme tu le disais aussi, on sonne les cloches pour les débuts des offices. Et aussi des prières importantes, comme par exemple à 19h.
Ça fait partie du... alors pour le coup, la semaine dernière, je parlais d'archéologie. Bah, archéologie sonore, si vous voulez savoir qu'est-ce qu'on écoutait, qu'est-ce qu'on entendait au Moyen-Âge, bah, le son des cloches, c'est un bon début.
Ça vaut, bah oui.
C'est, puisque le son n'a pas changé, il est toujours là depuis... Alors ça marche pour du coup l'Occident, puisque bah, chrétien. Ça marche aussi pour les églises au Proche-Orient.
Mmh.
Et pour tout ce qui est dans le monde musulman, il y a une exception, puisque là, on n'a pas de cloche pour l'appel aux offices religieux, on a plutôt la voix humaine, donc du muezzin. Il y a une exception, c'est au Sénégal, où on a les deux qui sont combinés, donc l'appel à la prière et aux offices religieux par le muezzin, et la cloche qui sonne les heures. C'est un cas exceptionnel.
C'est un cas particulier.
Exactement.
Eh bien, bravo. Bravo à eux, bravo à vous. Eh bien, merci beaucoup, Salouane, pour cette chronique. Et tout de suite, nous allons nous écouter un peu de Michael Jackson, qu'on a fêté là, son anniversaire de mort. Là,
mais il n'est pas mort.
Enfin, ce que les médias disent. Mais c'était au début du mois. Et nous allons nous écouter Say 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 avec Paul McCartney et Michael Jackson en tandem, une musique formidable. C'est tout de suite, c'est maintenant.
Sit home.
c'était Paul McCartney et Michael Jackson, Say, Say, Say. Une musique formidable que nous avons écoutée sur Radio Alpa et sur l'émission de la Percée de l'Histoire. Et maintenant, tout de suite, je vais vous faire une petite histoire de l'hôpital du Mans. Voilà, je cherchais que faire comme chronique sur le patrimoine manceau. Et puis, je cherchais sur les éventuelles places du Mans encore. Mais là, maintenant, c'est fini. Hein. À part la place des Jacobins et la place de la République qui ont vraiment une histoire, le reste, c'est des places nouvelles, j'ai envie de dire, construites avec l'urbanisation du XXe siècle. Donc, il n'y a pas vraiment grand-chose à dire. À part peut-être la place qui n'existe plus d'ailleurs, la place de Chasse-Royale, qui en fait est le rond-point sur l'avenue Rhin et Danube et la rue Voltaire, pour aller sur le Vieux-Mans. Eh bien, avant d'être un rond-point, c'était une place. Bon, on en a encore une partie à côté, avec la belle fontaine, tout ça, qu'ils ont refaite. Et qui a une petite histoire, mais pas de là à tenir 15 jours. Et je me suis dit, mais pourquoi pas faire une histoire de l'hôpital du Mans. Et d'ailleurs, vous avez un superbe article de Dicopolis, il me semble, de mémoire, consacré à l'hôpital du Mans. Et aussi d'autres chroniques et articles sur l'hôpital psychiatrique, qui n'est pas la même entité. Donc là, cette fois-ci, c'est l'hôpital. Et finalement, depuis quand, dans cette jolie ville, nous avons un hôpital? Essaye de deviner le siècle, mon cher Salouane. Quand est-ce qu'ouvre, voilà, je vais poser ma question clairement, quand est-ce qu'ouvre l'hôpital général de la ville?
Le même qu'aujourd'hui, toujours à son emplacement.
Oui, tout à fait. Enfin, il a été d'abord, il a été d'abord implanté sur la, à côté de la Visitation pour être transféré là où on le connaît.
18e, 19e siècle? Juste comme ça.
Eh bien, un siècle avant.
Ok.
17e siècle. Voilà. L'ancien hôpital général de la ville est ouvert en 1762 et s'étendait sur 6 hectares entre la rive gauche de la Sarthe et le couvent de la Visitation. Voilà, en fait, il était plus côté Visitation. Dès le 12e siècle, sous la domination des Plantagenêts, la ville se dote d'un hôpital Dieu. Qu'on appelle de Coëfort, qui est à côté du lycée Touchard Washington, je vous invite à visiter si vous avez le temps, qui est très, très joli, surtout très bien conservé, pour un bâtiment du XIIe siècle. C'est une sorte de dispensaire pour les pèlerins et les malheureux. Et savez-vous, cher ami, pourquoi on a fait un hôtel Dieu aussi grand de plafond? Parce que c'est avec un très grand plafond, finalement, c'est une très grande voûte.
Oui.
Et pourquoi faire une grande voûte pour un hôpital?
Pour accueillir plusieurs étages?
Non, même pas.
Je sais pas, pour ostentation, montrer qu'on peut construire grand?
Non, parce qu'en fait, on pensait que s'il y avait beaucoup d'espace, la maladie qui émanait du corps s'évaporait dans l'air. Et donc, plus c'était haut, et mieux c'était.
Les théories arriéristes avant l'heure.
Voilà, donc c'est un peu ça. Et en plus, s'il y a une petite présence de Dieu qui est là, c'est toujours mieux, tu vois, pour essayer de guérir tout le monde. Oui. Donc c'est pour ça qu'on a des voûtes aussi grandes. Et puis il y a un toit, si vous passez devant, vous l'avez déjà vu. Hein. C'est vraiment une maison d'enfant ou une maison qu'on a faite sur Minecraft.
C'est énorme. Ouais.
C'est énorme pour finalement pas grand-chose. Ou on aurait pu faire un premier étage, justement.
Oui.
Mais non. Alors, il est en fonctionnement pendant près d'un siècle. Et donc, l'hôpital Dieu de Coëfort est en fonctionnement jusqu'en 1646. Mmh. Et justement, c'est l'hôpital général qui prend le relais quelques années plus tard. Et donc, nous avions aussi 4 hospices dans la ville qui étaient en fonctionnement. Donc, nous avions l'hospice du Saint-Sépulcre, situé près de l'abbaye Saint-Julien-de-Pré, l'actuelle église Notre-Dame-du-Pré, qui a été bâti au VIe siècle par l'évêque du Mans de l'époque, Saint-Innocent, pour accueillir et secourir les pèlerins. Ces derniers venaient faire leur dévotion sur les reliques des premiers évêques du Mans, et apôtre du Maine qui étaient inhumés dans le cimetière, aujourd'hui disparu. Il y avait aussi l'hospice de Coulaines, fondé au IXe siècle par Saint Aldric, 23e évêque du Mans, qui était situé dans le faubourg de Coulaines et recevait des infirmes, des mendiants et des malades. Il y avait aussi l'hospice des Ardents, fondé au Xe siècle par l'évêque Avesgo, qui se situait place Saint-Michel, à l'angle de la place du cloître Saint-Julien de la Grande Rue. Il était destiné à recevoir de nombreux malades atteints du mal des Ardents, amenant souvent à de violentes et de graves gangrènes. Et enfin, la léproserie Saint-Lazare, située dans le faubourg Saint-Gilles, tout proche de l'actuelle avenue de la Libération, qui avait été fondée au XIe siècle et recevait des sujets atteints de la lèpre, anciennement appelée Maiselerie. Voilà, donc c'est très difficile à prononcer, mais c'était la lèpre. L'hôpital dit général, donc, subsiste jusqu'au XIXe siècle, où il finira par être remplacé le 22 avril 1888. L'ancien hôpital accueillait environ 700 personnes de toutes sortes, des malades incurables aux fous, en passant par les prostituées de la rue des Minimes, qui finissaient enfermées dans l'hôpital, carrément. Mais les bâtiments deviennent, à la longue, trop vétustes, sales et exigus. Monsieur Rubillard, alors maire du Mans, décide de vendre le terrain occupé par cet hôpital à très bon prix pour permettre une installation plus spacieuse un peu plus loin. Il réussit à le revendre à la Compagnie des Tramways du Mans qui transformera la place de 6 hectares en gare de tramways à vapeur. Le maire réussit à obtenir l'une des 16 hectares de la closerie de Montéard sur la route de Laval pour une installation bien plus grande. À l'époque, cette partie est très éloignée de la ville, centre, et constitue un petit coin de verre aux portes de la ville. L'exil sanitaire s'est très bien déroulé par les patients et les habitants, mais justement, ça a été très, 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 très difficile.
Le changement
a été... C'est l'exact inverse. Voilà, ça s'est très mal passé, le déménagement, mais finalement, au fur et à mesure du temps, ça s'est bien passé. La preuve en est, la multitude de promeneurs qui viendront profiter du cadre hospitalier tous les dimanches à la fin du 19e siècle est tout simplement grandiose. L'inauguration de l'actuel hôpital, tel qu'on le connaît, sera faite le 12 juillet 1891. Le bâtiment a souvent été pris à la limite nord-ouest de la ville et il a fallu attendre les années 1950 pour que la ville vienne vraiment jusqu'à l'hôpital. Parce que c'est exactement pareil que la fac. C'était vraiment construit, les premiers bâtiments étaient vraiment entourés de champs. Et aujourd'hui, c'est les limites de la ville, tout simplement. Voilà. Et donc, c'était tout pour ce petite histoire de l'hôpital du Mans, qui donc a fait plusieurs bonds, du centre-ville jusqu'à l'actuel lieu où on connaît. Et d'ailleurs, qui s'est encore agrandi récemment, puisqu'il y a maintenant une aile de cancérologie, figurez-vous, à l'hôpital du Mans. C'est super, c'est génial. Voilà. On referme cette petite page histoire. Et on s'écoute la dernière pause musicale de cette émission. Ce sera And the Bee Goes On de The Whisper, un groupe super pour une musique géniale. C'est tout de suite. Fishing in the ocean, they're all Retour sur Radio Alpa et sur la percée de l'histoire qui va rendre l'antenne un peu plus tôt ce soir, puisque voilà, c'est la fin déjà, la fin de l'émission, qui a été assez courte et finalement, ça fait déjà trois quarts d'heure, quoi. Oui. Mais nous sommes des gens occupés, et donc bon, voilà, nous sommes appelés ailleurs. Merci beaucoup tout de même de nous avoir écoutés aussi longuement. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour ce qui semble être l'une des dernières, voire la dernière de l'année. Je ne sais pas quand est-ce que c'est la,
oui,
fin,
peu,
la fin de la grille, mais bon, je le saurai très vite, hein, donc nous le saurons très vite. Bref, merci beaucoup Salouane.
Merci à toi.
Parce que c'était super, encore une fois. Et écoutez, maintenant, on va on va profiter de ce superbe temps pour aller se promener un peu. Et on se dit à la semaine prochaine. Merci beaucoup. Et ben portez-vous bien pendant la semaine qui vient. Au revoir.
À bientôt.
C'est une révolte.
Non, c'est rien. C'est une révolution.
Je vous ai compris.
I have a dream.
Libération ! Libération !
Rentre ici, Jean Moulin.
Avec ton terrible cortège.
That's one small step for man.
Ich bin ein Berliner.
Groupir !